Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. Les 27 chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne sont réunis en sommet aujourd'hui et demain. Sommet en visioconférence pour cause de situations épidémiques difficiles, voire très difficiles dans plusieurs pays européens. Situation rendue encore plus tendue par la pénurie de vaccins et la concurrence entre les pays. L'Europe s'est unie pour acheter et distribuer les doses, mais elle vaccine moins vite que la Grande-Bretagne ou les États-Unis ou encore Israël. Le nouveau président américain participe d'ailleurs à la discussion. Après la concurrence sur les masques, après les fermetures de frontières unilatérales, les vaccins mettent l'Europe en difficulté. L'Union européenne guérira-t-elle du coronavirus? C'est la question du jour.
RFI.
Et pour en parler, trois invités sont en direct avec nous aujourd'hui. Dans notre studio, nous sommes avec Guillaume Clossa. Bonjour.
Bonsoir Guillaume.
Vous êtes fondateur d'Europa Nova et de l'association Civico Europa. Vous êtes ancien Sherpa au Conseil européen et vous avez piloté la dernière présidence française de l'Union européenne. C'était en 2008. Et nous sommes en ligne avec Sébastien Maillard. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directeur de l'Institut Jacques Delors et également avec Ilana Sicurel. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes députée européenne du groupe Renaissance La République En Marche et porte-parole de La République En Marche, le parti présidentiel français. Guillaume Clossa, comment jugez-vous actuellement la situation européenne sur le plan épidémique ?
Écoutez, elle est inquiétante sur le plan épidémique parce qu'on voit que en France, en Allemagne, en Italie, même au Royaume-Uni, la pandémie continue à se développer et qu'on a de plus en plus de mal à l'arrêter. Elle est inquiétante sur le plan vaccinal pour les 450 millions de citoyens européens. Et on comprend maintenant qu'on a toutes les informations, que les décisions stratégiques qui ont été prises par les chefs d'État et de gouvernement il y a quelques mois en ayant une approche ouverte qui peut se justifier, mais qui n'a pas été suffisamment expliquée, en irriguant en vaccin le Royaume-Uni sans qu'il y ait de contrepartie britannique, pose quand même un certain nombre de questions. Et on se dit que tout ça mérite un vrai débat démocratique. Parce que moi, ce que je vois quand je regarde les études d'opinion, c'est que les citoyens, pour l'instant, ne considèrent pas que c'est l'Union qui est responsable. Ils considèrent que c'est leur chef d'État et de gouvernement et ils regardent en fait la gestion au jour le jour. Mais il y a un moment ou un autre où on dira « Mais pourquoi vous, Union européenne, vous n'avez pas fait aussi bien que les États-Unis, vous n'avez pas fait aussi bien qu'Israël, vous n'avez pas fait aussi bien que le Royaume-Uni ?» Et la vérité, c'est que les situations ne sont pas comparables parce que Israël, en fait, quelque part, il est dans l'écosystème américain il l'a toujours été. Le Royaume-Uni est dans une situation extrêmement particulière, c'est-à-dire qu'ils ont vacciné massivement avec des premières doses, mais ils l'ont fait avec des vaccins produits dans l'Union européenne, tout en mettant un embargo sur la sortie de leur propre vaccin vers l'Union européenne. Mmh. Et les Américains ont eu une approche qui ne les concernait qu'eux, puisqu'ils n'exportent pas de vaccins, ils en importent. Et donc, finalement, le sentiment que peuvent avoir les gens, c'est que l'Union européenne est un peu est perdant-perdant. Et donc, il y a besoin d'une explication politique maintenant pour rassurer les gens et pour expliquer ce qu'on fait et comment on le fait avec une vision de moyen-long terme. Mmh. Parce que cette gestion dans l'urgence, elle déstabilise les opinions publiques et c'est la porte ouverte au populisme.
Sébastien Maillard, vous êtes du même avis. Est-ce que l'Europe est en difficulté sur ces questions?
On voit qu'elle est en difficulté, effectivement, sur le plan logistique, industriel, pour déployer, on sait que produire, livrer et administrer des vaccins, c'est compliqué. Surtout, même fabriquer des vaccins, on parle d'une centaine de composants, la plupart d'ailleurs sont importés, donc c'est effectivement compliqué. Je pense que si on regarde l'équation globale, entre solidarité, sécurité, efficacité. C'est vrai qu'on n'est pas très bon à ce stade encore sur l'efficacité, je viens de dire pourquoi. Mais en revanche, on a été bon et meilleur, je dirais, que Israël ou que le Royaume-Uni sur la solidarité entre les 27, entre nous. C'est-à-dire que grâce au fait que la Commission a eu le mandat pour répartir les doses entre les 27 pays, aucun petit pays n'a été lésé. Et vous imaginez la foire d'empoigne que ça aurait été si 27 pays avaient fait la course pour chacun s'approvisionner de son côté au meilleur prix. Il y aurait eu une montée des enchères incroyable. Et puis aussi, effectivement, par rapport aux autres pays que vous citez, les États-Unis ou le Royaume-Uni, on a effectivement, nous, et c'est peut-être une préférence collective européenne, mis davantage d'efforts, de sécurité pour que les vaccins que l'on administre soit pleinement bien certifié et qu'effectivement il n'y ait pas de surprise. Et ça, effectivement, c'est une différence avec des pays qui sont peut-être plus efficaces, mais moins solidaires et qui font preuve de moins de sécurité.
Oui, Ilana Sicurel, l'Europe a fait le choix de s'unir et de confier l'achat et la distribution de vaccins à la Commission, alors que la santé, au départ, n'était pas une compétence, une prérogative européenne. C'est un bon choix. Est-ce que, pour reprendre un peu les termes de Sébastien Maillard, est-ce que l'Europe paye un petit peu ses valeurs de solidarité, d'entraide, d'égalité, de prudence
alors,
aussi?
Oui, bonsoir. Écoutez, c'est un cas très intéressant parce que on peut parler de solidarité, mais dans ce cas, la solidarité et, je dirais, l'efficacité sanitaire se rejoignent. Parce que vous ne pouvez pas, tant qu'une pandémie n'est pas éradiquée, et on aura en parlé, hein, puisque l'approche de l'Europe est une approche planétaire à terme. Donc, ce dont nous avons souffert, c'est probablement de ne pas avoir assez d'Europe, hein, puisque, comme vous le rappeliez, la santé n'est pas dans la compétence européenne. A-t-on eu raison de s'engager dans l'Europe de la santé au début de cette crise? Moi, je crois résolument que oui. Simplement, comme c'est un début, et ce sont des premiers pas, tout n'est pas parfait. Mais tout n'est pas non plus raté dans cette affaire, bien au contraire. Et je voudrais, si vous voulez, souligner avec vous le verre à moitié plein. Le verre à moitié plein, c'est que nous avons d'abord un certain nombre, nous avons tout un portefeuille de vaccins. Si vous regardez la situation au Royaume-Uni, aujourd'hui, ils n'ont que AstraZeneca avec tous les doutes qu'il y a sur ce vaccin. Même si on continue à, bien sûr, à avoir confiance dans ce vaccin dans un très grand nombre de cas. Nous avons, nous, toute une variété, un portefeuille de vaccins. D'ailleurs, Pfizer est en train de nous permettre de rattraper le retard à la livraison d'AstraZeneca. Donc ça, c'est un premier élément positif. Ensuite, il n'y a pas eu cette foire d'empoigne. Nous avons effectivement nous avons commandé 2,6 milliards et elles vont finir par arriver. Il y a eu effectivement un retard à l'allumage qui est en train d'être rattrapé grâce à une mission qui a été confiée à Thierry Breton, hein, qui est commissaire au marché intérieur et qui est en train de faire un travail absolument formidable. Et je voudrais parler des engagements qu'il a pris.
Oui, alors, Ilana Sicurel, c'est oui. Vous avez sans doute raison, mais vous parlez de retard à l'allumage. Rien que pour la France, on est à 300 morts par jour.
Alors, écoutez, bien sûr. Et si vous voulez, c'est chaque jour qui passe qui nous aide de la vaccination des plus vulnérables. Nous avons quelques semaines très difficiles à passer. Et nous sommes exactement à ce moment-là. Hein, nous sommes en train d'arriver. Nous sommes dans une montée en puissance très significative de la vaccination. Ce retard, il a un prix, il a un coût humain. Je vous rejoins, je ne peux que vous rejoindre et le déplorer. Mmh. Et je crois qu'il faut que nous regardions vers l'avenir. Et nous sommes maintenant, de manière très concrète, les 350 millions de doses d'ici le mois de juin qui vont être livrées au niveau européens, nous en avons 15% et ça va nous permettre de manière extrêmement claire d'assurer l'engagement qui a été pris par le Premier ministre de ces 10 millions à la fin du mois d'avril, 20 millions à la fin du mois de mai et 30 millions à la fin du mois de juin.
Alors, il y a eu un moment où c'était 15 millions mi-avril, mais bon, on est revenu un petit peu là-dessus. On va en reparler. Guillaume Clossat, j'aimerais rebondir et vous voulez peut-être ajouter quelque chose sur ce que disait Ilana Sicurel. Est-ce que c'est une incitation à plus ou à moins d'Europe?
Écoutez, moi, ce que je vois, si on regarde the big picture, comme on dit, premièrement, s'il n'y avait pas d'Union européenne, il n'y aurait pas eu de vaccin. C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas eu le vaccin BioNTech, Pfizer, et il n'y aurait pas eu le vaccin Oxford, AstraZeneca, pour une raison très simple. Ce que les Britanniques oublient systématiquement de dire, et ce que nous, on ne dit pas assez, c'est que la recherche amont, il y a plusieurs années, a été financée par le Conseil européen de la recherche. Ça, c'est la première raison. Et c'est quand même important, parce que c'est oublié. La deuxième raison, c'est que le fait qu'on ait commandé, quel que soit le prix, mais qu'on ait commandé massivement, a rendu solvable, et l'investissement américain, l'investissement britannique et l'investissement israélien ne suffisaient absolument pas, a rendu solvable la production de vaccins. Donc si aujourd'hui il y a des vaccins, C'est grâce à l'Union européenne, c'est grâce à la R&D qu'on a fait il y a quelques années et l'investissement du Conseil européen de la recherche, qui est la meilleure instance de recherche mondiale copiée par les Chinois et les Américains. Et c'est aussi grâce à notre capacité de commander collectivement. Le deuxième point qui est important, c'est que il y a eu de la solidarité, et cette solidarité, elle vient pas de la France, elle vient d'abord de l'Allemagne, parce qu'il y a eu un grand débat. On savait qu'en Allemagne, il y avait une capacité à produire rapidement le vaccin, hein, le BioNTech, parce qu'ils avaient l'ARN. Le sujet était, et c'est un sujet politique qui est encore en cours, est-ce qu'on partage avec les autres?
Dans la France.
Dans la France. Ouais. Et vous savez qu'il y a des débats aujourd'hui en Allemagne très forts qui disent on a eu tort. Mais ils l'ont fait. Et donc, merci à la solidarité allemande et merci à la chancelière d'avoir essayé de calmer les ardeurs nationalistes qui existent partout en Europe. Maintenant, si on a un problème vaccinal, je pense qu'il y a eu un problème de négociation parce que les Européens ont perdu, Ilana Sicurel l'a dit, du temps à l'allumage, mais aussi parce qu'on n'a pas défini les bonnes conditions de succès de la Commission européenne et des États membres. Nous n'avions pas les compétences pour acheter des vaccins. Ce que les Américains, qui ont une économie de guerre, les Israéliens avaient, et ce que les Britanniques avaient, parce qu'ils ont l'habitude de faire travailler le public et le privé, ce que nous, on n'a pas du tout en Europe continentale. Ouais. Maintenant, si on regarde l'avenir, le problème, c'est que les engagements de la Commission européenne et de l'Union européenne pour vacciner plus de deux tiers des citoyens d'ici la fin de l'été seront pas tenus. Donc, il faut trouver une stratégie pour pouvoir continuer à vivre avec le virus et voir comment produire un maximum de vaccins, mais aussi se donner les compétences, parce que il y a eu une coordination qui a été faite par le commissaire Breton, mais aussi par la directrice générale de la santé à la Commission européenne. Les correspondants des États membres n'étaient pas à niveau. On a mis des correspondants qui avaient des compétences en silo, alors qu'on avait besoin de correspondants politiques. Donc, le niveau d'animation européen, aujourd'hui, ne fonctionne pas complètement. Donc, il y a des choses qui doivent être débattues, mise sur la table pour pouvoir être améliorée. Et c'est là que je trouve qu'on n'est pas bon, parce que si on faisait comme les Taïwanais, qui en permanence mettent en évidence leurs faiblesses pour pouvoir en débattre et les améliorer, on progresserait. Et là, on a le sentiment qu'il y a une forme de rétention de la parole publique, des accords, qui crée un peu de défiance. Donc comment on fait pour gérer cette situation qui est une situation politique problématique.
Sébastien Maillard, la Commission et sa présidente Ursula von der Leyen, sur ce domaine-là, hein, sur la façon de s'organiser, elle est souvent montrée du doigt. Ça vous paraît justifié?
Oui, en partie. Et comme ça a été rappelé, bon, elle est sur un terrain nouveau. Je dirais quand elle a été élue, personne ne savait que c'était sur un terrain qui n'est pas de la compétence de la Commission qu'elle devrait s'illustrer. Et le fait d'ailleurs que tout le dossier est maintenant entre les mains de Thierry Breton et à quitter la DG Santé, c'est effectivement montre aussi effectivement qu'il fallait revoir la façon dont c'était organisé. Mais je pense que là, la Commission veut davantage montrer les dents. Et la discussion qui a lieu au Conseil européen ce soir, c'est notamment savoir si, pour justement qu'on puisse s'assurer d'avoir suffisamment de doses pour remplir nos objectifs d'ici à l'été, c'est de limiter les exportations de doses vers les pays tiers, notamment le Royaume-Uni. Mmh. Puisque ça a été rappelé, effectivement, le Royaume-Uni en reçoit plein de notre part, je crois 21 millions exactement, et nous, aucune. Donc, effectivement, et ça c'est nouveau, parce qu'on a toujours été habitué à être un marché européen ouvert et fondé sur des règles, et on reste respectueux des règles, mais ce serait tout à fait légal d'imaginer qu'on restreigne les exportations de ces doses s'il n'y a pas de réciprocité, bien sûr en faisant de manière proportionnée, hein, mais effectivement là-dessus l'Union européenne doit taper du poing sur la table pour se faire mieux respecter et ne pas se retrouver non plus victime de sa générosité. Et peut-être qu'il explique juste la dernière chose, qui est quand même le retard à l'allumage, c'est que effectivement et Guillaume Clossade a souligné, il y a eu un succès scientifique européen et mondial magnifique pour pour trouver le vaccin, et c'est trouvé en moins d'un an. Et je crois qu'on a tous été pris de court, et l'industrie et les États membres, y compris la Commission aussi, c'est-à-dire qu'à la fin de l'année 2020, personne n'imaginait qu'on aurait un vaccin aussitôt. et du coup, la tendance n'a pas suivi aussi vite.
Alors, Guillaume Clossa.
Oui, non, mais ça a été trouvé en moins d'un an parce que le travail de recherche fondamentale avait été financé il y a de nombreuses années. Ça, il faut le dire. Mmh. Et donc, en vérité, l'idée que ça a été trouvé en moins d'un an, c'est une illusion. Puis, il y a quand même une deuxième illusion, c'est l'illusion du succès britannique. Il n'y aurait pas eu de succès britannique vaccinal sans le transfert massif de vaccins de l'Union européenne vers le Royaume-Uni. Et donc, si Boris Johnson peut dire qu'il a un succès, c'est grâce à l'Union européenne, c'est pas grâce au Brexit. Il faut le dire,
parce qu'il y a une
stratégie de désinformation à l'égard de l'Union européenne qui est terrible.
Et justement, Ilana Sicurel, les avertissements au groupe pharmaceutique AstraZeneca, soupçonné de favoriser la Grande-Bretagne, est-ce que c'est une façon de communiquer pour montrer de la fermeté, tout simplement? Ou est-ce qu'il va vraiment y avoir un arrêt des exportations ou un contrôle des exportations de vaccins?
Alors je pense que c'est absolument pas de la communication et je voudrais rendre hommage une fois de plus à Thierry Breton parce que ce qui nous a permis de trouver ce stock auquel vous faites allusion, c'est-à-dire les 26 millions de doses qui ont été trouvées en Italie et qui sembleraient devoir être acheminées vers l'extérieur de l'Union européenne, eh bien c'est la cartographie qu'on a de la production du vaccin qui nous a permis de trouver déjà ce stock. Et ce que je pense, c'est que s'il est avéré que effectivement ces doses, alors même que AstraZeneca n'a pas honoré ses livraisons à l'égard de l'Union européenne, s'il est confirmé que ces doses sont destinées à être exportées, on peut tout à fait, effectivement, je pense qu'il est tout très sérieusement envisagé d'interdire l'exportation. Et c'est tout à fait normal. Il y a cette notion de réciprocité qui a été maintenant soulignée par la Commission, et je pense que c'est extrêmement important. On est sorti d'une forme, effectivement, de naïveté. La solidarité, oui, mais être le dindon de la farce, non. Mmh. Et le Royaume-Uni, effectivement, a montré dans ce dossier un égoïsme tout à fait regrettable. Et je crois que la question que vous posez, d'une manière plus générale, est-ce qu'on va guérir du Covid? Moi, je crois qu'on peut sortir grandi du Covid, comme souvent les crises permettent des développements. Et la clé, c'est la souveraineté en matière de production du médicament, depuis le paracétamol jusqu'au vaccin. Et nous allons devenir au deuxième semestre l'espace où on va produire le plus de médicaments. Vous parliez tout à l'heure de moyen et de long terme. Je crois que c'est extrêmement important. Plus jamais nous devons être surpris par une telle pandémie. Et je pense donc que l'Europe de la santé est en train de se construire et ça commence avant tout par cette autonomie sur le plan de la production des vaccins.
Guillaume Clossa, il va vraiment y avoir un arrêt des exportations des doses de vaccins produites dans l'Union européenne, ou enfin un contrôle? C'est pas dans la culture européenne, qui est plutôt quand même libre-échangiste, il faut le dire, et ça peut même être contre-productif. On importe des substances pour fabriquer ces vaccins dans l'Union européenne.
Non, mais il y a des chaînes d'approvisionnement qui sont des chaînes globales, donc il y a un risque et en effet ça peut être contre-productif. Et d'autre part, il aurait fallu que l'Union européenne soit assez forte, mais ça c'est ni la France ni l'Allemagne, c'est l'Union européenne comme puissance, pour imposer aux États-Unis et aux autres grands partenaires globaux de jouer le jeu de la vaccination mondiale. Parce que comme l'a dit Ilana Sicurel tout à l'heure, une pandémie c'est mondial, donc il faut trouver une solution mondiale. Et là on voit bien que les seuls qui ont un peu d'empathie et de solidarité à l'égard du monde, c'est les Européens. À ceci près que nous n'avons pas une politique de communication à la hauteur dans le reste du monde, alors que les Chinois valorisent chaque fois qu'ils font...
La diplomatie vaccinale.
Ils ont une diplomatie. Et donc nous, on a besoin d'une diplomatie vaccinale. Mmh. Mais pour ça, il faut aussi qu'on renforce notre diplomatie européenne, qui est assez fragile aujourd'hui. On l'a vu avec l'affaire russe. Mais je pense que on devra tirer des enseignements de cette crise. Je crois que la gestion de crise sanitaire doit être une compétence européenne, j'allais dire de nature fédérale, parce que la vérité, c'est que les maladies ne regardent pas les frontières. Et je pense que le premier sujet et le premier défi qu'on a, c'est d'avoir une bonne information vaccinale. Parce que la vérité, c'est que c'est à cause de la mésinformation chinoise qu'on a perdu du temps. Et on voit bien aujourd'hui que quand on fait des diagnostics, on n'est pas capable d'avoir une qualité de diagnostic qui soit la même partout. Il y a un taux d'erreur qui est trop élevé. Et secondo, on n'est pas capable d'avoir une information en temps réel qui permette d'anticiper les pandémies. Or, la technologie, l'intelligence artificielle, le développement de la photonique, les progrès dans le domaine médical permettent aujourd'hui d'avoir un système de monitoring européen. Oui. Mais il faut que ça soit un grand objectif de la décennie pour pouvoir être en mesure de dépister, d'anticiper les prochaines épidémies, endémies ou pandémies qui viendront. Et cette information médicale nous permettra ensuite d'améliorer les traitements et d'accélérer le développement de vaccins. Mais commençons par la base. C'est l'information médicale aujourd'hui qui est défaillante et les Européens ont les moyens d'avoir un plan d'information médicale à l'échelle continentale qui en ferait la première puissance sanitaire mondiale. Oui. Et je crois que c'est ce type de débat aujourd'hui qu'on doit avoir pour préparer dans le domaine sanitaire l'après-Covid.
Sébastien Maillard, pardon de retourner un peu le couteau dans la plaie, mais quand même, j'y reviens, la comparaison de la situation vaccinale entre l'Europe et la Grande-Bretagne qui a réalisé le Brexit, ça fait quand même mauvais effet, non ? Est-ce que c'est même pas peut-être un poison ? Ils sont sortis, ils vaccinent plus vite.
Grâce à nous. Ça faudra voir à la fin, dans un an, où ils en sont et où on en est, parce que là, effectivement, ils ont été très vite avec une injection massive et en espacant les deux doses, effectivement, en misant sur les importations qu'on leur faisait. Mais il y a quand même un jeu de dupes. Et effectivement, ce qui a entravé l'efficacité de production vaccinale et dont on est victime en Europe, c'est notamment le double jeu que semble avoir AstraZeneca, en tout cas le non-respect de ses engagements. Donc je pense que ça incite les Européens à être beaucoup plus fermes aujourd'hui. Je pense que ce qui concerne les limiter les exportations, c'est une vraie arme pour négocier et pour mieux s'entendre, pour effectivement avoir une meilleure réciprocité. Mais je pense que, comme ont dit mes interlocuteurs, l'Union européenne, elle sort renforcée de cette crise. Non seulement, je pense que sur le plan économique, elle a montré aussi sa solidarité avec le plan de relance qui est en train d'être préparé pour être vraiment secourir les économies. Mais encore une fois, aucun pays seul n'aurait pu s'en sortir pour obtenir autant de doses avec un choix de vaccin important. Moi, je préfère encore être vacciné en Union européenne qu'en Grande-Bretagne.
Ilana Sicurel, il y a eu, faut le dire aussi, un certain nombre de coups de canif dans le contrat de l'unité européenne depuis un an, des comportements unilatéraux, des pays qui se volent des masques sur les tarmacs d'aéroports, qui ferment leurs frontières sans concertation, qui suspendent unilatéralement la vaccination et toute l'Europe s'arrête de vacciner pendant une semaine. Ça fait beaucoup quand même, non?
Non, mais il ne faut pas confondre ce qui relève de l'incident et ce qui relève de l'état structurel de l'Europe. Hein, c'est-à-dire que fermer ses frontières parce qu'à un moment donné, justement, on n'a pas une Europe de la santé, et c'est quelque chose qui était tout à fait normal et logique.
Ça veut dire que vous voulez aller plus loin, c'est vous aussi, c'est ce que disait Guillaume Cousin, vous êtes d'accord.
Tout à fait, je crois qu'il faut aller beaucoup plus loin et je crois que cette crise va avoir un effet d'accélérateur. Vous savez, l'Europe est toujours pertinente quand elle est plus utile, hein, c'est le fameux principe de subsidiarité. Mais finalement, ce concept, il est très simple, hein, c'est-à-dire que soyons à l'échelle européenne quand on est plus efficace à l'échelle européenne. Et je crois qu'on a toutes les raisons de penser, justement, que l'Europe doit être beaucoup plus ambitieuse encore en matière d'investissement dans la recherche. Nous allons maintenant vers l'élaboration d'un passeport qui va permettre justement la circulation au sein de l'Union européenne en se mettant d'accord sur ce qui permet à quelqu'un de venir dans les différents pays d'Europe. Je crois qu'on va vraiment faire des progrès tout à fait considérables dans les semaines qui viennent là-dessus. Et donc, on sortira, oui, plus fort. Et je voulais simplement préciser une chose, hein, quand vous disiez les exportations, l'Union européenne n'est pas dans l'état d'esprit de fermer à toute exportation. Hein. C'est en cas de problème, et tout à fait évident, comme avec le Royaume-Uni, où il y a vraiment une absence de réciprocité tout à fait évidente, et qu'une entreprise produit en Europe et ne livre pas ce qu'elle doit à l'Union européenne, là, l'Union européenne est en droit d'arrêter les exportations. Hein. On est dans un cadre bien particulier. Tout au contraire, et depuis le début, hein, et la France a eu un rôle très important, je pense, Emmanuel Macron à titre personnel, a eu une approche planétaire. Et là encore, comme je le disais d'entrée de jeu, la générosité et la solidarité, notamment avec le continent africain, rejoint l'efficacité, tout simplement, du vaccin. Parce que, comme le disait un autre interlocuteur, si vous n'éradiquez pas la pandémie de la planète, elle vous revient. Donc il y a un mécanisme, le mécanisme COVAX, et l'Union européenne, qui va maintenant être l'un des plus grands producteurs de vaccins, va être extrêmement attentive à ce que justement l'ensemble des pays et l'ensemble des citoyens de cette planète puissent avoir accès aux vaccins.
Ouais. Guillaume Clossat, plus généralement, si on recule, si on parle de la big picture, comme vous disiez tout à l'heure, le fonctionnement de l'Union européenne, il est affecté depuis un an. C'est des sommets en visioconférence. Il n'y a pas de bilatéral où on se rencontre dans les couloirs à cette occasion-là. L'efficacité, la fluidité, est-ce que là aussi, elles ne sont pas les mêmes et que ça a joué dans les difficultés?
Il y a un paradoxe. C'est que d'un côté, il y a eu le sentiment d'une vulnérabilité partagée qui amène dans les populations, il suffit de regarder les sondages d'opinion, à une sorte de confiance dans l'Europe, pas forcément dans les institutions européennes, mais dans les institutions nationales, mais on a envie de plus d'Europe. Donc là, il y a au niveau des citoyens, il y a cette... Et à mon avis, c'est cette envie et c'est cette solidarité qui a permis le grand plan de relance européen, parce que, rappelez-vous, quand aussi bien les dirigeants nordiques que les dirigeants allemands étaient réticents, mais les opinions publiques étaient pour. Et donc l'opinion publique a poussé à des grands choix, je dirais presque des pas fédéraux, en matière de relance et à plus de solidarité dans le domaine sanitaire. Mmh. Maintenant, il y a un vrai sujet, c'est que l'Union européenne n'a pas été faite pour la gestion de crise. Moi, ça fait 20 ans que je suis toutes les crises, il y en a eu 10. Et à chaque fois, on a du mal et on patine un petit peu. Et donc, il y a un moment où il faut se dire, est-ce que c'est pas le moment de repenser le logiciel européen pour qu'il soit adapté à un monde de crise et qu'on soit pas tout le temps en réaction. Mmh. Et puis, il y a un sujet de compétence. C'est-à-dire que on a des règles qui, contrairement aux Britanniques ou aux Israéliens ou aux Américains, font qu'on ne recrute pas les meilleures compétences et qu'on s'appuie essentiellement sur nos fonctions publiques. Alors, ça a des avantages, mais parfois ça a des inconvénients parce que il y a des compétences rares, il y a des équipes de gestion de crise qui doivent se mettre en place et qu'on ne sait pas mettre en place avec les règles européennes actuelles. Et puis il y a un troisième élément quand même, c'est que je trouve que l'Europe ne fait pas si mal si on regarde à l'échelle mondiale. On est quand même dans ceux qui sont les mieux vaccinés. Si on prend les 10 premiers États, il y a un quart d'États européens de l'Union européenne qui sont dans les premiers vaccinés. Donc ce n'est pas si mal, mais on a une communication qui est déplorable. Parce que malheureusement, les commissaires, la présidente de la Commission ne sont pas audibles, et que les États membres ont chacun leur propre stratégie de communication. Donc là, il y a une vraie réflexion, parce que moi je vois la valeur ajoutée européenne, mais je vois que les gens ne la perçoivent pas ou ne l'entendent pas.
Vous voyez cette façon, Sébastien Maillard, de dire « on fait mieux que nos voisins » à chaque conférence de presse, c'est problématique aussi pour l'Europe peut-être, non ?
En tout cas, on s'emploie à le faire et je pense qu'on n'a pas à rougir de notre solidarité. C'est effectivement important notamment de faire valoir...
Je parlais de chaque État membre, hein, bien sûr, hein, de par rapport à leurs voisins, la France par rapport à d'autres pays, par exemple.
C'est un vieux sport national. Effectivement, et dans cette crise comme dans les autres, c'est souvent effectivement content à faire, mais Gimcosa a raison d'insister sur le fait que les opinions publiques dans cette crise sont en attente d'Europe, et les dirigeants peuvent savoir que effectivement on attend, mais qu'est-ce que fait l'Europe pour ce vaccin. Donc là-dessus, c'est vraiment effectivement une vraie appui à ce que l'opinion publique est vraiment derrière pour que cela avance. Et je pense que les Européens ont montré effectivement qu'ils ont su faire face dans une improvisation complète, en effet, qui est propre de ces sommets, mais à arriver à ce que, même si on est dans un tout petit pays de l'Union européenne, comme la Lettonie ou Malte ou Chypre, eh bien, effectivement, on a eu reçu ces doses de vaccins au même prix que les autres. Et je pense que ça, c'est vraiment un succès que les 27 peuvent faire valoir.
Guillaume Clossat.
Non, mais disons-le, hein, la France n'aurait sans doute pas eu de vaccin non plus, pas seulement les petits, pour qui c'est indispensable, mais même les grands.
Mais vous
le disiez,
l'Italie
n'aurait sans doute pas eu de vaccin.
Ça s'est posé en Allemagne comme question.
Mais bien sûr, ça se pose en Allemagne. Moi, je rebondis sur ce que a dit Sébastien Maillard. Il a raison. Je crois que dans cette affaire, c'est les citoyens de l'Union qui sont modérés et parfois les dirigeants qui sont populistes.
Merci beaucoup, Guillaume Clossat. Merci à nos autres interlocuteurs, Sébastien Maillard et Ilana Sicurel, d'avoir été avec nous ce soir, d'avoir participé à cette émission. Merci à toute l'équipe du débat du jour, Florence Ponce à la coordination, Gérard Perrault à la documentation et à la réalisation aujourd'hui, Romain Leborgne. Vous pouvez nous retrouver, nous réécouter et nous podcaster sur les réseaux sociaux, sur nos applications mobiles ou sur notre site internet rfi.fr. On se retrouve lundi, même heure, même endroit. Dans quelques instants, l'info revient sur RFI. Prenez soin de vous et des autres. Appliquez les gestes barrières, c'est loin d'être fini. Et bonjour chez vous.
RFI.
Le goût du monde, Clémence Denavy.
Lactèse de pomme de terre.